santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Mercredi prochain, le président des États-Unis, Barack Obama, s'adressera aux deux chambres du Congrès pour défendre son projet de réforme de l'assurance santé. L'objectif étant en gros quand même d'assurer les 46 millions de personnes qui sont sans couverture médicale aux États-Unis et aussi de faire baisser les coûts de santé. Les critiques sont nombreuses, virulentes, de nombreuses fausses rumeurs circulent. Alors en quoi consiste ce projet? Pourquoi d'ailleurs tant de réticence? Pourquoi aussi est-il essentiel? Nous en parlons aujourd'hui avec Evelyne Thévenard, qui est maître de conférences en civilisation américaine à l'université de Paris 4 et elle effectue des recherches depuis de nombreuses années sur la protection sociale aux États-Unis. Si vous souhaitez participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous entendrons le point de vue des conservateurs qui se sont mobilisés contre cette réforme. Nous essaierons d'ailleurs de comprendre pourquoi. Nous entendrons également des démocrates qui soutiennent ce projet. Le professeur Krivitsky, qui est ancien chef de service à l'hôpital Avicenne à Bobigny, nous dira pourquoi lui, il tient à notre sécu française. Et nous aurons au téléphone le docteur Miakala, qui est l'ancien secrétaire général à la santé de la République démocratique du Congo. Evelyne Thévenard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié État et protection sociale aux États-Unis aux éditions Ellipse. Est-ce que vous pouvez d'abord, en quelques mots, nous expliquer quel est le système actuel pour qu'on comprenne ce qui a besoin d'être réformé?
Alors, les États-Unis sont le seul pays industrialisé à ne pas avoir de système national de santé, d'assurance maladie universelle couvrant toute la population, c'est-à-dire l'équivalent de notre Sécu. Ça n'est pas un système entièrement privé, hein, contrairement à ce qu'on imagine souvent. C'est un système mixte, public-privé. Il y a donc deux dispositifs publics. De principaux dispositifs publics depuis 65, Medicare qui couvre les personnes âgées de 65 ans et plus, c'est-à-dire entre et également les handicapés lourds, hein, les handicapés lourds et les dialysés, entre 13 et 15% de la population. C'est un système qui est fédéral, hein, qui est financé au niveau fédéral et géré au niveau fédéral. Il y a ensuite Medicaid, qui a aussi été créé en 1965, qui est le principal dispositif d'assistance médicale aux plus pauvres. Il ne couvre pas tous les pauvres, attention. Hein. Il couvre principalement les mères célibataires, disons les familles avec des enfants à charge. Si on n'a pas d'enfants à charge, on n'est pas couvert par Medicaid.
Le reste de la population, alors d'abord ceux qui travaillent.
Eh bien, la plupart des Américains de moins de 65 ans qui travaillent sont couverts par une assurance privée.
Qui est prise par l'entreprise.
Oui, un peu moins de 60% sont couverts par leur employeur, mais entre 5 et 6% des Américains de moins de 65 ans souscrivent une assurance privée individuelle qui est beaucoup plus chère. Mais il faut noter que les employeurs ne sont pas obligés d'assurer leurs salariés.
Hein. Et ça, on y reviendra parce que ça peut faire partie des objectifs de la réforme.
Bien sûr.
Alors, une fois qu'on a vu tout ce monde-là, il reste quand même 46 millions sans couverture sociale, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni bénéficier de Medicare, Medicaid, qui n'ont pas de travail, donc pas d'assurance.
Voilà. Alors, qui sont-ils? On peut peut-être dire deux, trois mots de ces non-assurés. Hein. Alors certains sont chômeurs, mais ça n'est pas la majorité. Hein. La majorité sont des salariés qui ne sont pas assurés par leur entreprise ou qui ne le sont plus. Donc des travailleurs pauvres, hein, des working poor, qui occupent des emplois peu qualifiés dans des entreprises de services. Souvent des petites entreprises, mais ça peut être également des employés à temps partiel ou dans l'intérim, dans la grande distribution. Par exemple, dans les restaurants, mais même aussi, et ça c'est étonnant pour nous, dans le secteur de la santé. Par exemple, les personnes, en majorité des femmes, qui assurent les soins à domicile pour les personnes âgées, très souvent ne bénéficient pas d'une assurance maladie.
Et n'ont pas de quoi se la payer. Les objectifs de cette réforme,
Oui.
Je le disais en début d'émission, c'est quoi? C'est essentiellement justement d'essayer que ces 46 millions de personnes sans couverture sociale en aient une et qui seraient quoi? Financées par l'État?
Bon, alors, les objectifs d'Obama, je vais lui donner la parole, puisque dans un récent débat, il en a mentionné quatre. Réduire les dépenses nationales de santé, protéger les...
Attendez, réduire les dépenses de santé, 18% du PIB, c'est un des pays pour qui la santé coûte le plus cher.
Ah oui, tout à fait.
Donc réduire les coûts de santé.
Réduire les coûts nationaux de santé. En France, c'est 11% du PIB. Aux États-Unis, c'est entre 16 et 17%. Donc réduire les dépenses nationales de santé, protéger les consommateurs des abus des compagnies d'assurance, fournir une couverture de santé abordable à tous les Américains qui n'en ont pas. Tout cela sans alourdir le déficit. Le président Obama s'est engagé à opposer son veto à tout projet de loi qui alourdirait le déficit.
Mais ça dépense coûte horriblement, enfin cette réforme, pardon, coûte horriblement cher. On l'imagine bien. On parle de 1000 milliards de dollars sur 10 ans.
On parle de 1000 milliards de dollars sur 10 ans.
Alors comment elle va être financée?
Alors comment elle va être financée? De deux manières. D'une part, Obama compte sur les économies réalisées en éliminant le gaspillage dans le système existant et en améliorant l'efficacité du système qui existe. Alors comment? Par le biais de la prévention, du recours à l'informatisation des dossiers médicaux, d'études sur le rapport coût-efficacité des médicaments. Il compte également, et ça c'est très controversé, il compte également faire des économies en réduisant les paiements aux hôpitaux pour Medicare.
Et ça, c'est ce qui inquiète aussi.
Ce qui inquiète les seniors.
Evelyne Thévenard, si vous voulez bien, on va revenir évidemment tout au long de cette émission sur cette réforme et on va entendre des conservateurs, des démocrates. On entendra aussi évidemment le professeur Krivitsky.
Priorité santé sur RFI.
Evelyne Thévenard, je ne vous cache pas que nous, en tant que Français attachés à notre sécu, comme on l'appelle, on a du mal à comprendre ces Américains qui sont contre un système d'assurance maladie publique. Alors, on a voulu comprendre leur point de vue. Lorraine Ortiz, qui est la correspondante de RFI à Los Angeles, s'est rendue dans une réunion des conservateurs qui se mobilisent contre ce projet d'Obama. Elle y a rencontré Adam, qui a 30 ans, technicien en informatique.
Je suis un conservateur et je suis d'accord avec la plupart des idées exprimées à ce forum. Je ne veux pas que le gouvernement s'empare du système de santé. C'est juste qu'aux États-Unis, la Constitution définit précisément les rôles d'intervention de l'État. La santé n'est pas et n'a jamais été conçue par les pères fondateurs comme un service qui serait fourni par le gouvernement. Dans tous les pays qui ont un système basé sur l'État comme unique payeur, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour ce système, mais aussi beaucoup de personnes qui ne travaillent pas pour lui. Ce que je veux dire, c'est que, du coup, il y a des files d'attente, comme au Canada, comme dans différentes parties de l'Europe. Les gens qui ont des maladies graves, ils doivent attendre, attendre et attendre. Je pense que ce qu'il faudrait faire, au lieu de donner des trucs aux gens, de leur acheter des trucs, subventionner ici et là, on devrait plutôt avoir pour but de les aider à trouver un emploi, améliorer leurs compétences, améliorer leur vie. Parce qu'en Amérique, quand on a un travail, dans 99% des cas, c'est l'employeur qui fournit l'assurance maladie. Le problème avec le système de santé gouvernemental, c'est que le coût explose. Et quand c'est le cas, on commence à rationner. Et là, tout le monde en pâtit. Oui, il y a des gens aux États-Unis qui ne sont pas traités. On essaie justement d'augmenter le nombre de personnes qui ont une couverture, soit grâce à leur employeur, soit grâce au programme Medicare ou Medicaid. Moi, je suis assuré par une entreprise qui s'appelle Kaiser. Ça marche bien. Je vais chez le docteur, je paye une très petite somme, environ 10 dollars, et je vois le médecin. Quand je tombe malade, je peux voir un médecin le jour même, la plupart du temps, ou le lendemain.
Comment avez-vous eu cette assurance ?
Avec mon travail, je dois payer un minimum de 50 dollars par mois. Mon employeur offre plusieurs contrats différents. J'ai choisi celui-là parce que je suis jeune et pas souvent malade.
Evelyne Thévenard, Adam nous le dit bien, je suis jeune, je ne suis pas souvent malade, donc le système me convient très bien. C'est un peu égoïste pour nous, côté français.
Ah oui, tout à fait. Mais il faut voir que bon, les Américains n'ont pas la même idée de la solidarité que nous. Il faut voir aussi que 80% des Américains sont assurés, en fait. 80-85% des Américains sont assurés.
Oui, mais quand Adam vient de nous dire 99% des salariés ont une assurance maladie par leur employeur,
oui, c'est faux.
Leurs besoins, c'est faux.
Oui, c'est faux. C'est environ 60%. Mais malgré tout, la plupart des Américains sont assurés. Beaucoup ne sont pas trop mécontents du système. Ce qu'ils redoutent, en fait, un des principaux obstacles, ça ne va pas être de convaincre dans le public les non-assurés que la réforme est bonne, mais de convaincre ceux qui ont déjà une assurance maladie qu'ils ont plus, au final, à gagner qu'à perdre à une réforme.
Ils ont clairement peur de payer d'un côté leur assurance maladie privée et des impôts supplémentaires pour payer la couverture
ils
maladie.
Ils redoutent énormément les coûts de la réforme et une augmentation des impôts.
Adam nous dit aussi le système canadien, certains systèmes en Europe. Est-ce que c'est si horrible que ça?
Bon, alors, la propagande républicaine, la propagande conservatrice a vraiment joué à plein. Mais ça n'est pas nouveau. Depuis des années, chaque fois qu'il est question de réformer le système de santé américain, on dit, mais regardez ce qui se passe ailleurs, regardez la France socialiste, regardez. Alors, cette fois-ci, c'est principalement le système britannique et le système canadien.
Qui est montré du doigt. Et les Britanniques ne sont pas contents, ils sont montés au créneau.
Y compris Gordon Brown, le premier ministre britannique en personne est monté au créneau pour défendre son système. Bon, alors, les républicains jouent sur la méfiance viscérale des Américains envers l'État. L'État est perçu comme une menace. Pour nous, Français, l'État, c'est l'État protecteur. Bon, l'État nous protège. Pour les Américains, l'État est perçu comme une menace pour les libertés individuelles, la liberté de choix, une sorte de monstre bureaucratique qui prendrait des décisions vitales à la place des patients et des médecins. Et puis alors, les réactions des gens sont également à replacer dans le contexte de ce qui se passe depuis un an, c'est-à-dire une intervention directe, massive, de l'État dans l'économie. Les Américains sont inquiets du rôle croissant de l'État dans leur vie. Il y a eu le sauvetage des banques, il y a eu une prime à la casse, un petit peu comme chez nous, pour encourager l'achat de voitures américaines. Les Américains sont inquiets de voir la mainmise, ce que certains appellent la mainmise de l'État.
Et c'est pas du tout, on comprend bien, dans la culture américaine.
Pas du tout.
Aujourd'hui, nous parlons de la réforme de l'assurance santé aux États-Unis avec Evelyne Thévenard, qui est maître de conférence en civilisation américaine à l'Université de Paris 4. Evelyne Thévenard, les critiques contre ce projet de réforme ont été très virulentes, parlant même de nazisme et allant jusqu'à assimiler Obama à Hitler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu des dérapages.
Oui, il y a eu clairement des dérapages lors des réunions dans les États, puisque pendant la trêve parlementaire du mois d'août, les sénateurs, les représentants et le président Obama sont allés dans les États pour prêcher la bonne parole, essayer de convaincre les Américains que c'était une bonne réforme. Alors, les incidents lors de ces meetings, où certains parlementaires démocrates se sont fait traiter de nazis, sont fait huer, pendre en effigie, sont en fait...
relativement rares, c'est
ça. Ils sont relativement rares, ils sont le fait de provocateurs d'extrême droite, de groupuscules qui provoquent ce genre d'incidents, qui incitent, par le biais de blogs, par exemple, sur Internet, qui incitent les Américains à aller aux meetings pour les perturber.
Pour essayer de les boycotter.
Voilà.
Je vous propose d'écouter le point de vue de Jeffrey Dodge, le président de l'Alliance des conservateurs de Los Angeles. Il organisait donc un meeting sur le sujet la semaine dernière. C'est au micro de Laurie Nortis.
As conservative.
En tant que conservateur, on s'oppose à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à du socialisme. Barack Obama essaie de contrôler le système de santé américain. Or, à chaque fois que le gouvernement décide de s'immiscer dans le secteur privé ou de rivaliser avec le secteur privé, cela va contre la tradition et les valeurs américaines. Je ne dis pas qu'Obama va devenir fou et contrôler tout le pays ou qu'il va, vous savez, ou qu'il va tuer les juifs. Il ne fera jamais quelque chose comme ça. Personne ne fait cette comparaison.
On a pourtant vu les images d'Obama avec une moustache
Ok, certaines personnes veulent montrer quel chemin on prend, de la démocratie au socialisme, au fascisme, au communisme, à la tyrannie, à la dictature, à la mort, à la misère. C'est le chemin qu'on prend en ce moment si on soutient Barack Obama. Le conservatisme, c'est la concurrence, les incitations, l'innovation venant du secteur privé. privée. Et le gouvernement est censé protéger le peuple et essayer de créer les conditions pour que l'on puisse commercer sans avoir peur que quelqu'un nous vole quelque chose. Je suis absolument pour une réforme. Il y a plein de problèmes qui doivent être réglés, mais la plupart d'entre eux ne sont pas dus à la concurrence de libre marché ou au capitalisme de marché. La plupart des problèmes sont causés par l'intervention de l'État. Par exemple, l'un des problèmes, c'est le prix de la prime à payer pour avoir une assurance maladie. Si on pouvait acheter une assurance dans un autre État, on pourrait payer beaucoup moins. Mais le gouvernement nous en empêche parce qu'il a le pouvoir d'imposer ses règles. Chaque État a sa situation particulière. Il n'autorise pas les compagnies d'assurance à être concurrentes au-delà des frontières de chaque État. Donc, comment on règle le problème ? On encourage plus de concurrence, surtout entre les États. Il existe des milliers de compagnies d'assurance et je pourrais acheter mon assurance dans le New Jersey, ce qui forcerait les entreprises californiennes à les concurrencer. Et donc, elles baisseraient leur prix et je pourrais acheter une assurance ici, mais moins chère. Il faudrait aussi avoir des assurances à la carte. Moi, je n'ai pas besoin d'une assurance maternité parce que je ne serai jamais enceinte, ni pour une opération de changement de sexe parce que je n'aurai jamais d'opération de changement de sexe. Donc si je pouvais choisir une assurance à la carte, ça serait beaucoup moins cher. Il n'y a pas une seule personne dans ce pays qui n'a pas accès aux urgences. C'est une obligation pour les hôpitaux. Ils ne peuvent refuser personne. Ils sont tenus de vous soigner. Après, ils vous demandent de payer. Et si vous ne pouvez pas payer, ils sont perdants.
Evelyne Thévenard, est-ce que vous voulez bien nous essayer à comprendre ce que vient de dire Jeffer George, qui est le président de l'Alliance des conservateurs de Los Angeles? D'abord, une première chose, quand il dit les hôpitaux sont obligés de soigner en cas d'urgence, est-ce que c'est la réalité?
Bon, il y a une loi fédérale qui les oblige à stabiliser le patient, à stabiliser l'état de santé du patient avant de le transférer éventuellement dans un hôpital public ou un hôpital à but non lucratif. Mais entre-temps, les gens peuvent mourir.
Et après, l'hôpital peut continuer à réclamer l'argent qu'a coûté justement ce travail en urgence pendant très longtemps.
Pendant très longtemps, les biens peuvent être saisis. Plus de la moitié des faillites personnelles aux États-Unis sont dues à ce qu'on appelle des dettes médicales.
Alors, pouvez-vous nous aider à comprendre ce qui vient de dire? On a l'impression que c'est très loin pour nous de notre mentalité, de notre façon de voir les choses.
Tout à fait. Bon, j'ai parlé de la méfiance historique des Américains envers l'État.
Le socialisme
est une... Voilà, oui, il y a quand même une différence entre les républicains et les démocrates. Il y a une fracture idéologique entre une majorité de républicains pour qui la santé est un bien de consommation comme un autre. Et ce bien de consommation doit être soumis aux lois du marché, à la libre concurrence. Par contre, pour une majorité de démocrates, l'accès aux soins ne devrait pas être fonction de la capacité à payer. Donc les républicains sont dans leur grande majorité opposés au projet pour des raisons idéologiques que je viens de mentionner, mais aussi politiques. Vont tout faire pour le faire échouer, car un succès aurait des conséquences politiques très lourdes pour eux, rallierait une majorité d'électeurs au Parti démocrate de manière durable, comme ça a été le cas pour Roosevelt après le New Deal.
Mais est-ce qu'il y a quand même quelques républicains modérés qui finalement sont relativement pour cette réforme, reconnaissent qu'il y a quand même un problème, 46 millions de personnes sans couverture sociale?
Il y a quand même pas mal de républicains qui reconnaissent qu'il y a un problème. Mais la majorité des républicains pensent que le marché peut régler ce problème. Il y a quelques républicains modérés, extrêmement peu, peut-être 3 ou 4. Si Obama veut faire passer sa réforme, il faudra absolument qu'il gagne
quelques
voix.
Evelyne Thévenard, on se retrouve après les informations, donc toujours pour parler de cette réforme Obama sur l'assurance santé. Après avoir entendu le point de vue des conservateurs qui se sont mobilisés donc contre cette réforme, nous entendrons celui des démocrates qui soutiennent ce projet. Le professeur Krivitsky nous dira pourquoi lui il tient tant à notre sécu française et nous aurons au téléphone le docteur Miakala, qui est l'ancien secrétaire général de la santé de la République démocratique du Congo.